Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde, bonjour Corinne.
Et t'oublies pas quelque chose Didier,
ah mais c'est notre première... Je t'ai déjà souhaité bonne année, mais là,
première émission de l'année, donc
voilà,
on va souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs, à
en toutes nos auditrices. C'était l'année surtout. Du serpent, pour l'instant on va fêter notre
bonne année. C'est ça, c'est pas encore terminé.
C'est ça.
L'année du dragon, je sais pas si on peut dire en profiter, parce que cette année du dragon, elle a été terrible.
Mais c'est le dragon.
C'est le dragon, voilà, c'est ça. Donc oui, on va fêter l'année du serpent très bientôt. En tout cas, on vous souhaite à tous une très très bonne année.
Exactement.
Une bonne santé et plein de bonheur.
Voilà.
Alors, voyage au Japon aujourd'hui, pour commencer l'année et pour illustrer notre 16e émission de la saison sur le bouddhisme. C'est pas notre 16e émission sur le bouddhisme, mais cette émission-là est sur le bouddhisme.
D'accord.
Donc, je vous propose de découvrir l'étonnant pèlerinage des 88 temples.
Oui,
quasiment là, aussi célèbre que
après
Compostelle.
Après les festivités, là, on va passer à autre chose. Là.
C'est ça. On va commencer l'année
un
dans la sérénité.
Un peu d'ascétisme, tranquille.
C'est ça.
Okay.
Et de l'ascétisme, tout
c'est
à
ça.
Fait. Et donc, pour rentrer dans une atmosphère zen, Didier, toi, tu vas aussi nous éclairer, et toi, sur le ginseng.
Oui, on va retrouver des forces, on va rééquilibrer tout notre
tous nos
microbiote,
excès
notre
de fin d'année et de début d'année.
Exactement.
Voilà, donc le ginseng, c'est la plante merveilleuse dont la forme évoque le corps humain. Voilà.
Eh bien, c'est parfait. Tu vas donc nous emmener dans un voyage du genre spirituel, je suppose. Là.
Oui, tout à fait, pour un long voyage mystique à travers l'île de Shikoku. C'est la plus petite des grandes îles japonaises et peut-être la plus authentique. Elle est très souvent oubliée des touristes, donc je la recommande tout particulièrement.
D'accord.
Mais alors, où se trouve Shikoku, Didier ?
J'allais te demander.
Je savais que tu allais me le demander. Donc, c'est une île qui est située à l'ouest de Honshu, dans la mer des Philippines. C'est une île montagneuse, pas de très haute montagne, mais ça grimpe pas mal.
D'accord.
Avec une nature préservée, un climat plutôt doux, au printemps et à l'automne, et qui sont d'ailleurs les deux meilleures saisons pour ce pèlerinage.
Mmh.
Alors on peut y aller facilement en avion ou en bateau, et on dit de cette île qu'elle est un sanctuaire de tranquillité.
Parfait. Mais alors, qu'est-ce que ce pèlerinage, s'il te plaît ?
Alors, le pèlerinage des 88 temples de Shikoku est l'un des parcours spirituels les plus célèbres au Japon et même dans le monde.
Mmh.
Et il se perpétue depuis 1200 ans quand même. C'est
tout
un très, très vieux pèlerinage.
Je vois.
Et il couvre environ 1200 kilomètres et relie, comme son nom l'indique, 88 temples bouddhistes répartis sur les quatre préfectures de l'île de Shikoku. Alors, il y a Tokushima, Kochi, Ehime et Kagawa.
D'accord.
Alors, il est profondément enraciné dans la tradition bouddhiste, ce pèlerinage, et il est lié à la figure du moine Kukai, un nom bien connu chez nous.
Mmh.
Et ce moine Kukai était également connu sous le nom de Kobo Daichi, fondateur de l'école Shingon du bouddhisme ésotérique. On avait vu ça en fin d'année dernière, le bouddhisme ésotérique. Et il faut noter que la marque de vêtements Kukai tire son nom de ce moine.
D'accord.
Bon, je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais c'est une réalité.
Ah ouais, je savais
pas.
Moi, je pensais à autre chose pour Kukai.
C'est une marque de vêtements qui est quand même...
Ça me parle.
Ça te parle. Voilà, ça vient de là.
Alors, sortons de la mode et allons vers le bouddhisme. De quel bouddhisme s'agit-il en fait ? Qu'est-ce que c'est que ce bouddhisme
ésotérique. On en avait un petit peu parlé, mais là je vais quand même faire un petit rappel sur les courants du bouddhisme sur lesquels nous reviendrons dans de prochaines émissions quand même, parce qu'il y a beaucoup à dire forcément.
Ouais.
Alors je rappelle qu'à l'origine il y a le Theravada, qu'on appelle le petit véhicule, c'est le bouddhisme originel. Puis il y a le Mahayana, le grand véhicule, et c'est le bouddhisme tibétain, celui-là.
Mmh.
Et le Vajrayana, le véhicule de diamant issu du Mahayana, dont le bouddhisme Shingon fait partie.
D'accord.
Donc le Vajrayana, souvent appelé le bouddhisme tantrique, met l'accent sur des pratiques rituelles, symboliques et méditatives pour atteindre rapidement l'illumination. Il y a même, pour la petite anecdote, mais c'est quand même intéressant à savoir, il y a aussi des pratiques sexuelles dans le bouddhisme tantrique.
D'accord.
On peut atteindre une forme de... L'absolu à travers des pratiques. Là, d'un coup. Oui, ben on fera peut-être une émission là-dessus.
On verra ça une prochaine fois.
Alors, comme le moine Tripitaka qui a ramené les écrits bouddhiques en Chine, vous vous rappelez, au 1er siècle, c'est le moine Kukai qui les a ramenés de Chine au Japon 7 siècles plus tard. Et le Shingon s'est ensuite développé là-bas avec une esthétique et des pratiques adaptées, bien sûr, au contexte japonais. Mmh. Et Kukai a donc voyagé à travers l'île pour enseigner et fonder plusieurs temples. Et le pèlerinage est considéré comme un moyen d'honorer sa mémoire et de suivre son chemin spirituel.
Très bien. Bon, Corinne, moi j'en veux en savoir plus sur ce moine Kukai, s'il
avec
te plaît.
Ce nom particulier. Ben, oui. Alors Kukai, il est né à Shikoku, c'est pour ça aussi qu'on fait le pèlerinage sur cette île et qu'il a ses 88 temples. Il est né en 774 et il est mort en 835 à l'âge de 61 ans au mont Koya. Et Kukai est également connu sous le nom, comme je vous le disais, de Kobo Daichi. Oui. Et il est l'un des moines les plus importants et influents. Et il est considéré donc comme le fondateur du bouddhisme Shingon, qui est le plus influent au Japon. D'accord. Alors son influence s'étend non seulement au domaine religieux, mais aussi, et ça c'est très important, à la culture, à l'écriture et à l'administration japonaise.
D'accord.
Alors, le nom de Kukai, c'était Saeki Mao.
Ouais.
Et sa famille appartenait à une classe moyenne d'aristocrates. Et il a montré très tôt un talent pour les études. Alors, il a d'abord suivi les enseignements confucéens, on s'en doute, et taoïste, dans l'intention de poursuivre une carrière à la cour impériale du Japon, bien sûr.
Okay.
Et il s'est intéressé rapidement au bouddhisme. Alors, à 30 ans... En 804, il va partir en Chine dans le cadre d'une mission diplomatique du gouvernement japonais.
Ouais.
Il va étudier auprès du maître chinois Hui Guo, qui lui transmettra les enseignements du bouddhisme ésotérique tibétain. Et Hui Guo va mourir assez vite après avoir désigné Kukai comme son successeur.
Ah oui.
Ce qui était quand même remarquable pour un étranger en Chine.
D'accord.
Quand même, qui préservait son... Je dirais ses partisans, les Chinois. Quoi.
Oui, c'est ça. Ils sont quand même centrés sur eux-mêmes un petit peu. Quand même.
Ils sont quand même un peu centrés sur eux-mêmes.
Donc, et alors, il est rentré ensuite au Japon, notre bon moine, j'imagine.
Kukai, oui. Il est rentré peu de temps après. Et il avait bien sûr très vite assimilé l'enseignement de Hui Guo. Il est retourné au Japon en 806 et a donc introduit les enseignements ésotériques qu'il avait reçus en Chine. Et sous le nom, alors c'était ses enseignements, c'était le Chingon Chu, qui signifie l'école des vrais mots,
d'accord,
ou paroles véritables.
Ah, okay.
Alors contrairement au bouddhisme Theravada centré sur le détachement et le renoncement, le Chingon, lui, met l'accent sur les pratiques rituelles, les mantras, les mandalas et les gestes sacrés pour atteindre l'illumination dans cette vie même. Autrement dit, plus rapidement, c'est-à-dire que plus on prie, plus on a des activités, on va dire, liturgiques.
Ouais.
Je
ne
sais pas si c'est le terme qui convient dans le bouddhisme.
Comprends.
Mais voilà, on atteint l'illumination plus rapidement que le détachement et le renoncement.
D'accord. Et alors, quand il est revenu au Japon, où est-ce qu'il est parti s'installer pour enseigner ?
Alors, il s'est installé au mont Koya, qui est pas loin d'Osaka, et donc non pas à Shikoku. Et c'est en 816 que Kukai a reçu la permission impériale d'établir un centre spirituel à Koya-san. Donc Koya-san, c'est montagne Koya. Et ce site est devenu depuis un autre lieu de pèlerinage majeur, car c'est le centre névralgique du bouddhisme Shingon d'aujourd'hui.
D'accord.
Alors on peut aller, ça c'est pour ceux qui veulent aller visiter le Japon, et j'en connais, on peut aller y séjourner plusieurs jours très facilement, ils ont un site internet et tout, et donc on peut profiter des enseignements de Kukai.
D'accord, si alors, c'est pas loin d'Osaka, ça doit être assez facile alors.
Oui, c'est assez très facile d'accès.
D'accord.
Et Kukai a aussi introduit et popularisé un rituel qui est très célèbre au Japon, qui s'appelle le Goma, c'est le rituel du feu. C'est une cérémonie dans laquelle des offrandes symboliques sont brûlées pour purifier l'esprit. Mais on avait déjà parlé de ça. Les Japonais, ils brûlent beaucoup les choses pour les purifier.
Mm-hmm.
Elles sont purifiées après ça.
et
donc, Kukai a écrit aussi plusieurs œuvres philosophiques importantes, dont les 10 mondes, une explication des différentes étapes de la conscience et de l'illumination, et un autre livre qui s'appelle Les secrets trésors du Shingon, un résumé des enseignements ésotériques. Je ne vais pas détailler ça ici.
Non.
Et chose très importante, pour la suite, il a également enrichi l'alphabet japonais en structurant les caractères, les kanas, ce qui a révolutionné la littérature japonaise, qui n'avait, je le rappelle et j'insiste, qui n'avait pour écriture que les caractères chinois.
D'accord.
Donc c'est Kukai,
okay,
qui est à l'origine de l'écriture japonaise, on
quand
peut
même
le dire.
Oui, oui,
oui, oui. C'est quelqu'un d'important.
Tout à fait.
Alors moi je propose une pause musicale, on va écouter Igurashi.
D'accord.
Et la chanson est un titre anglais, c'est une chanson douce japonaise, une chanson tirée d'un manga, c'est Dear You.
Ok. Donc nous voilà à nouveau sur les pas de notre moine pour le pèlerinage, toujours sur Radio Alpa et Asiologie, malgré tout quand même.
Oui.
Donc il a eu donc un grand rôle dans la culture japonaise, de ce que tu m'en dis.
Oui, oui, on peut même dire que Kukai était un visionnaire. Il a enseigné à la cour impériale, il a joué un rôle crucial dans l'organisation du clergé bouddhiste et a contribué à des projets publics. Alors, je ne sais pas, des projets structurants, hein, comme la construction des de réservoirs, d'aqueducs, c'était un architecte.
Ah oui.
Oui, oui, oui.
Truc très concret, quoi.
Très concret. Okay. Il arrivait à concilier la religion et l'administration, l'administration de l'État.
Ok.
Alors, Kukai, il est mort en 835, donc au mont Koya, qui est devenu un mont sacré au Japon. Mais ses disciples croient qu'il n'est pas réellement mort, il serait entré en méditation éternelle.
Très bien.
Donc là, on ne parle pas de nirvana,
hein,
comme avec Bouddha, différent.
D'accord, oui.
Et c'est en 921 que l'empereur Daigo lui conféra le titre posthume de Kobo Daishi, qui signifie « grand maître qui a propagé les enseignements ».
Ok, d'accord.
Voilà pourquoi il a plusieurs noms.
Ok, bon alors là, on va revenir, s'il te plaît, sur le chemin du pèlerinage, et j'aimerais savoir quels sont les objectifs en fait. Enfin, j'ai une idée, mais bon.
Voilà, alors le pèlerinage des 88 temples est une quête de purification, Didier. Un moyen de chercher la paix intérieure, un peu, c'est un peu comme tous les pèlerinages.
C'est ça,
hein.
À partir du moment où on marche tranquillement, on a le temps de penser, de réfléchir et de se concentrer
et de se purifier,
sur un tas de choses.
C'est vrai. Et donc, il avait aussi pour but d'expier les péchés et de prier pour des bienfaits spécifiques. Alors, chaque temple représente une étape du cheminement spirituel. Alors, il ne faut pas les faire n'importe comment, il y a un ordre.
Ouais.
Et ça offre l'opportunité de méditer sur les enseignements bouddhistes spécifiques à chaque temple concerné.
Okay.
Alors, ils sont tous numérotés, les temples, et suivent une boucle autour de l'île.
Ouais.
Et donc, chaque temple est associé à une prière, donc un mantra. Et donc, il y a Tokushima, ce sont les temples de 1 à 23.
Ouais.
Tokushima, c'est la phase de l'éveil. Ensuite, il y a Kochi, les temples 24 à 39, la phase de la 16. Et Hime, de 40 à 65, la phase de l'illumination. Et la dernière partie, Kagawa, la phase du nirvana.
Très
nirvana
bien.
De la méditation,
d'accord,
de la méditation absolue. Voilà.
D'accord. Alors, on va être plus pratique. Comment se fait le pèlerinage?
Oui.
Est-ce que ça ressemble un peu à quand on va à Compostelle?
Oui, C'est comme Compostelle, on peut le faire à pied,
ouais.
En voiture.
Ah aussi ?
Oui.
D'accord.
En bus ou à vélo.
Ah ouais, moi j'avais en tête qu'à pied pour moi, mais bon, d'accord.
Et
okay.
Non,
et oui, forcément.
Voilà, et même à cheval probablement.
Sûrement.
Parce que ça manquait, mais oui,
vrai,
on peut
vrai.
Le faire comme on veut.
Oui, oui,
et
sûr.
C'est même plus souple que Compostelle, je pense. Hein.
D'accord.
Et parce que à Compostelle, dans mon souvenir, je pense qu'il faut faire les derniers 90 km à pied.
Oui, c'est... alors là, je ne vais pas te contredire.
On pourra le vérifier, mais
d'accord.
En tout cas, je pense qu'il y a quand même une petite obligation de donner un petit peu de sa personne,
mm-hmm.
un peu plus. Donc, le mode traditionnel, c'est bien sûr la marche.
Ouais.
Et ça peut prendre de 30 et 60 jours.
Ouais.
Mais en voiture, en bus, forcément, on peut le faire en 10 jours environ.
Forcément.
C'est beaucoup plus rapide.
Mm-hmm.
Bon, à savoir, quitte à être déçu,
oui.
Seuls 0,1% des pèlerins le font à pied. C'est
ah
quand
ouais
même pas beaucoup.
Bah,
oui, c'est décevant.
Bon, on
ne
peut pas comparer à Compostelle, parce que
ah bah,
Compostelle,
non.
Par contre, à l'inverse,
dans
il y a
l'idée,
beaucoup.
Enfin... C'est... On peut le comparer à Compostelle,
d'accord.
Mais dans la réalité,
ah
en
oui.
fait, on
ne
rencontre
ah
oui. pas beaucoup de
moi,
marcheurs.
Je suis très surpris, d'accord.
Voilà. Donc, et on peut aussi, bien sûr, comme Compostelle, le faire en plusieurs fois.
D'accord.
Alors, oui. En fait, si le pèlerinage était autrefois un acte de foi rigoureux, il est aujourd'hui accessible à tous.
Mm-hmm.
Et beaucoup de pèlerins modernes cherchent davantage bah, une expérience culturelle
ouais.
et personnelle plutôt qu'une pratique religieuse
d'accord.
stricte, hein,
ouais.
comme le chemin de Compostelle.
Ouais,
et puis, bah, comme Compostelle, le pèlerinage des 88 temples contribue mm-hmm. à la vitalité culturelle et
oui.
économique de la région, en
bien
plus
sûr.
De nous immerger dans la culture japonaise. Et ces paysages magnifiques.
D'accord. Est-ce que c'est difficile ? Alors, je ne parle pas en voiture. Là,
alors, hein. Contrairement à Compostelle,
oui.
Techniquement, le sentier n'a aucune difficulté.
En plus, mince.
Et
alors.
Le plus gros problème reste le bitume, qui représente 80%
ah,
du trajet.
Oui. Ah, tu...
Et oui, les Japonais
aussi,
sont très
surpris,
pragmatiques.
Mince.
Mais il y a des chemins parallèles,
ah,
beaucoup plus sympas.
Voilà.
Donc,
voilà,
si tu as l'intention de le faire, il y a des chemins de traverse bah, qui sont
ouais,
balisés.
J'aimerais pas trop faire 80% sur du bitume.
Bah, moi non plus, moi non plus. Mais donc, il faut le savoir qu'il y a, il y a des boucles parallèles.
Okay, okay.
Et donc, un des avantages de ce chemin, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir sa tente dans le sac. Il y a beaucoup d'hébergements qui
ouais.
longent le chemin.
Mm-hmm.
Et de même, il y a aussi suffisamment de points de restauration pour ne pas avoir besoin de faire son pique-nique, à condition d'organiser ses étapes avec le fameux guide de map
ouais.
qu'il faut acheter au temple numéro 1
bah
pour 12 euros environ.
Et voilà.
Alors, il ne faut pas oublier que c'est la campagne et qu'il faut quand même un minimum d'équipement.
Oui, d'accord. Et ben alors, c'est quoi cet équipement spécifique ? Il y a des rituels à chaque étape ? Parce que, bon, par exemple, Compostelle, il y a le coup où tu tamponnes ton carnet de pèlerin et là, il y a aussi ce genre de choses ?
Oui, tout à fait. Il y a la crédentiale, enfin, ça ne s'appelle pas comme ça,
oui.
mais c'est... oui, il y a ça. Mais il faut la tenue du pèlerin, Didier.
Ah.
Au minimum,
alors,
la veste blanche qui symbolise d'accord. l'engagement, la pureté et la mort pour,
mm-hmm.
pour rappeler la brièveté de la vie.
Mm-hmm.
Et puis, bah, c'est bien d'avoir son bâton
oui.
hein, qui représente Kukai.
Ah oui.
Voilà, c'est, le bâton représente Kukai. Qui nous accompagne.
Mm-hmm.
Il faut aussi un chapeau conique. Ça, c'est très important aussi.
Ah
Kukai
bon
est toujours représenté avec un chapeau conique.
Très bien.
Et bah, ça sert contre le soleil et la pluie. Il faut
mm-hmm.
savoir que c'est imperméable, les chapeaux coniques.
Ah oui.
Et le chapeau conique, c'est un symbole d'humilité.
Mm-hmm.
Il faut aussi de bonnes chaussures, bien sûr, et
ça.
Puis le matériel habituel,
ouais,
une trousse
ça.
À pharmacie, etc.
Mmh.
Alors à chaque temple, un rituel en plusieurs étapes. D'abord, on se lave les mains et la bouche à la fontaine.
Ouais.
On sonne la cloche pour annoncer sa présence.
Mmh.
On dépose une offrande, donc de l'argent dans la boîte.
Eh oui.
Et puis on récite un sutra.
Mmh.
Voilà, et on fait des louanges au grand maître.
D'accord.
Voilà, et puis bah, comme tu le disais Didier, on reçoit un tampon dans mmh. un carnet spécifique qui est la preuve du passage.
D'accord.
Alors il faut savoir que c'est une tradition au Japon et ça se développe un peu partout, en Corée et en Chine, de faire tamponner son petit carnet de voyage.
Ah oui.
Voilà, même si on n'est pas pèlerin.
D'accord, pas forcément que dans des lieux spirituels, c'est
non,
ça que tu veux dire.
Voilà, dans okay. les gares aussi, dans,
ah,
des,
oui.
dans endroits un petit peu
ah, bah,
touristiques, tu peux avoir ton tampon.
Ok, bah écoute.
C'est très sympa.
Ça doit.
Alors, il faut savoir qu'il y a des nombreuses agences qui organisent des circuits organisés, mais on peut partir seul facilement. Il y a des panneaux, c'est très très bien balisé, et des panneaux multilingues. Alors, multilingues, pas le français, il ne faut pas espérer
oui.
le français au Japon.
Bah, avec l'anglais,
mais
avec
l'anglais, on s'en sort. Et bien sûr, le guide map
mm-hmm.
que je vous recommande.
D'accord.
Et je vous conseille aussi de lire le livre d'Ariane Wilson, qui s'appelle tout simplement « Le pèlerinage des 88 temples
oui. ».
Elle l'a fait à pied, elle, en 2 mois,
oui.
et elle décrit ses 1400 km de bonheur qu'elle s'est très bien partagée dans son livre.
Très bien, bon, bah, écoute.
Bon, ben, on se refait une petite pause
oui.
musicale,
oui.
Didier. C'est une pause sino-coréenne qu'on avait trouvée rafraîchissante.
Oui,
hein
tout à fait.
在哪里发呆，有什么事是还无法释怀，我们总把人生想得太坏，像他人不允许我们的乖，每一片与众不同的云彩都需要找到天空去存在，哦，我们都习惯了原地徘徊，却无法习惯被依赖，你给我这一辈子都不想失恋，在相信你的征途就是星辰大海，美好剧情不会更改，是命运最好的安排，你是我这一辈子都不想失恋，在就算你的呼吸远在千山之外，请你相信我给的爱值得你爱。
Bah Didier, merci pour cette pause rafraîchissante.
Voilà.
Mais elle n'aura pas duré longtemps, c'est vrai que...
Ah bah c'est une petite pause, quoi, qu'est-ce
c'est
que tu
une,
veux.
C'est une petite pause, je trouve qu'Asialogie rétrécit.
Ah oui.
Bon, c'était très
sympa. Ça doit être la nouvelle année, c'est pour ça, en 2025.
Alors, voilà. Bon, Didier, tu nous parles de cette plante magique, le ginseng.
Voilà, exactement. Oui, le ginseng, c'est effectivement une plante aux multiples vertus, en fait. Alors, qu'on appelle aussi racine homme. Elle ressemble à la forme d'un corps humain, en fait.
Oui, c'est drôle.
C'est ça, hein.
Oui, c'est
les
ça.
Racines du ginseng, notamment le ginseng panax, en effet, ont souvent une apparence qui rappelle un tronc humain avec les bras, les jambes et parfois même une tête.
Oui, il n'y a pas toujours la tête.
Non, pas toujours. Alors, cette forme particulière a intrigué de nombreuses cultures, notamment en Asie, où le ginseng est vénéré pour ses propriétés médicinales. Ça ne surprend pas trop,
oui,
mais dans la médecine
parlé, oui.
traditionnelle chinoise, bah, en fait, cette ressemblance a renforcé l'idée que le ginseng pouvait offrir des bienfaits pour tout le corps humain, en fait.
Oui, c'est sa forme qui fait penser à ça.
C'est ça. Cette croyance est liée à la doctrine des signatures, une ancienne théorie qui explique que la forme ou l'apparence d'une plante est un indice des organes ou des systèmes corporels qu'elle pourrait traiter,
ah ouais.
en fait. Voilà.
Intéressant.
C'est rigolo, oui.
Alors, quand a-t-on découvert le ginseng, Didier ?
Ah bah alors, depuis des millénaires, hein, on s'est très vite rendu compte que le ginseng possédait des propriétés stimulantes. C'est une plante qu'on trouve principalement en Asie ou en Amérique du Nord. Alors, son nom scientifique, c'est le Panax ginseng, pour le ginseng asiatique, et le Panax quinquefolius, pour le ginseng américain. Alors, c'est de la famille botanique des Zaraliacées. Le terme panax vient du grec pan, qui veut dire tout, et akos, qui veut dire remède, soit le remède universel.
Oui, la panacée.
C'est ça. Mm. Bon, quant au mot ginseng, bah, c'est dérivé du chinois ginshen, qui signifie racine humaine.
Bah oui, gen, ça veut dire humain.
D'accord. Mm. Je ne te contredirai pas sur ce coup-là.
Oui. Alors, décris-nous cette plante, Didier. On n'a pas l'habitude d'en voir.
Non, pas
France,
vraiment. Hein. On les voit prêtes à consommer, on va dire.
Oui, c'est
Elle
ça.
Mesure entre 30 et 80 cm. C'est une plante vivace avec des feuilles comme des palmes et des fleurs discrètes, verdâtres ou blanches. Pas facile à repérer, que ça pousse à l'ombre, en fait. La partie utilisée, c'est principalement, bien sûr, la racine qui se développe après 6 ou 7 années de culture, malgré tout.
Ah oui, c'est long
oui,
quand même,
c'est
pas tout de suite, la racine.
Hein. Il faut distinguer donc deux types de ginseng. L'asiatique, comme on l'a dit, cultivé en Chine, en Corée, au Japon. Qui a des effets énergisants, et le ginseng américain, lui, est réputé pour ses propriétés calmantes.
Faut pas se tromper,
c'est ce que j'allais dire.
Hein.
Ça fait pas pareil. Si on veut se calmer et qu'on prend l'autre, c'est pas bon, quoi.
Non, c'est pas bon.
Quant au ginseng rouge, c'est une racine cuite à la vapeur et séchée, souvent utilisée en Corée. Et le ginseng blanc, lui, séché sans cuisson, plus doux en goût. Le ginseng est un produit de luxe et son commerce est très très régulé, en fait.
Mm. Alors, de quoi est-il composé? Quelles sont ses propriétés, ses bienfaits?
Voilà, le ginseng contient plus d'une trentaine de composés bioactifs identifiés qui agissent positivement sur le système nerveux central, le système immunitaire et sur le métabolisme. Il y a des propriétés antioxydantes, bon, efficaces contre le vieillissement et qui contiennent du zinc, du fer, du magnésium, des vitamines du groupe B. Il améliore l'énergie, réduit la fatigue, il aide à la concentration et à la mémoire, réduit le stress. J'ai l'impression de faire une pub là, tellement il y en a. Hein.
Il faut qu'on en prenne.
C'est ça. Un autre effet bénéfique, il augmente la résistance aux infections en stimulant les défenses naturelles. On ferait bien d'en faire une cure.
Pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
C'est ça. En résumé, il aide le corps à trouver un équilibre. Il paraît aussi qu'il améliore la libido. Alors là, et les performances sexuelles, il est considéré comme un aphrodisiaque naturel.
Avec le bouddhisme tantrique en plus.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure.
Belle idée de cadeau, Didier. Ouais. Mais alors, comment on le consomme?
Alors, c'est simple. La racine brute se mâche. Voilà. Moi, je ne le consomme pas comme ça. On fait infuser comme du thé. On peut aussi le consommer sous forme d'extrait ou de complément alimentaire, facile à trouver en parapharmacie. Le ginseng rouge, lui, coréen, est très recherché. Il est consommé sous forme de thé ou de décoction. On en fait aussi des cosmétiques pour les propriétés antioxydantes,
c'est
forcément,
bon pour
et anti-âge.
Beaucoup de choses.
Voilà. Et donc, des crèmes, des sérums. Bon, il y a quelques contre-indications, attention. Pour les femmes enceintes, allaitantes ou les enfants, il est à éviter en cas d'hypertension, de troubles hormonaux ou de traitement anticoagulant. Il peut interagir avec des médicaments anticoagulants.
Et Didier, est-ce qu'on peut l'utiliser en cuisine?
Alors, oui, parce qu'en plus, il a des propriétés, donc de ses propriétés médicinales. Le ginseng est utilisé en cuisine pour sa saveur subtile, ça. C'est plus là que je la connais. Pour bénéficier de ses vertus énergétiques, il est très prisé dans les cuisines asiatiques, ça, on le retrouve beaucoup.
Eh oui, parce qu'on sait que la cuisine, ce qu'on mange, ça nous soigne. Hein,
voilà, c'est ça, dans les plats, les soupes, les ragoûts, les desserts. Son goût est particulier, avec une saveur légèrement amère, terreuse, avec des notes douces en arrière-goût. Et puis, c'est la racine fraîche ou séchée qu'on utilise en cuisine ou en poudre. On fait aussi des bonbons, des gâteaux, des glaces et bien sûr des alcools. C'est un ingrédient précieux en cuisine.
Bon, Didier Asialogie, c'est fini.
Oui, voilà.
Les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Bon, on sait qu'il y a du ginseng qui pousse en France maintenant. On peut trouver du ginseng français.
Ah, bon, alors
on vous retrouve la semaine prochaine.
C'est
vous
ça.
Pouvez nous écouter en podcast sur Radio Alpa. Et bien sûr, nous retrouver sur notre page Facebook à des débuts d'année difficiles, je trouve.
Nous envoyer des photos de votre cuisine au ginseng pour voir ce que ça donne.
Voilà, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.